Every day, anywhere, anytime. The Digital Gospel Channel. Ebenezer International, your station. Nous vous proposons d'écouter Flash sur la Bible. Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Si jamais quelqu'un vous demandait comment se porte votre Bible, quelle serait votre réponse? Dans le but de vous aider à répondre correctement en tant que croyant ou étudiant de la Bible, la radio chrétienne Ebenezer International s'estime très heureuse de vous proposer cette nouvelle édition de Flash sur la Bible. C'est votre ami podcasteur Franck Doristil qui vous parle depuis son home studio basé en France métropolitaine dans le Val d'Oise. Et c'est avec beaucoup de plaisir que nous allons passer en votre compagnie ces précieuses minutes à l'étude de la parole de Dieu. Je vous rappelle que Flash sur la Bible est une courtoisie de Bible ouverte qui est une association des églises Action biblique de Suisse. Au programme d'aujourd'hui, nous étudierons quatre livres de la Bible. Il s'agit des premiers et deuxièmes livres des rois et premier et deuxième livre des chroniques. D'ores et déjà, je vous souhaite une agréable écoute en vous proposant un premier morceau qui nous sera offert par l'artiste sud-africain Neville Didwix, accompagné de ses amis, morceau qui nous conduira vers la première partie de notre programme. Je vous souhaite une bonne écoute sur la radio qui vient vers vous pour vous servir, Ebenezer International. Vous écoutez Flash sur la Bible.
And it feels like, oh, my hope, it's gone, it's gone, it's gone. I'm asking myself, when will this end? Wondering when my change will ever come. But I will speak those things that may not as of the world. Got to pray just a little bit more. I can do it if I just believe. I can do it if I believe it. I can face another day with the right words to say. I can make it, no doubt about it. I can do anything. Oh, I can do anything.
Yeah. So now that I've changed my frame of mind, I understand the greatness inside of me. There's no need to wonder no more. With you on my side, I can make it, yes I can. Now I will
those things that cast the
brain
just a little bit.
Open my mind.
I can do it if I spread my wings and fly.
I can do it if I believe it.
on a day with the right words to say. I can make it, no doubt about it. See, I can do anything. I can do anything. I can do anything.
I can climb this mountain and I can run this race.
Flash sur la ligne.
I can conquer whatever I have to face.
I might be down and out, but I will rise again.
I can do it if I spread my wings and fly.
I can do it if I believe it.
If I believe it,
I can face another day.
I can face another day.
Words
yes,
say
I can face another day. Set my heart and my mind on. I can do it 'cause I trust in you.
Vous écoutez Flash sur la Bible. Après ce beau morceau de l'artiste Neville Didwix, il ne nous reste qu'à souhaiter la bienvenue à toute l'équipe de Bible Ouverte et vous souhaiter également une bonne et agréable écoute. Quant à moi, je vous reviens après pour la deuxième partie.
Les deux livres des rois. Comme pour les deux livres de Samuel, les deux livres des rois, dans le texte original hébreu, formaient une entité. Nous voulons donc les considérer comme un tout. Les chapitres 1 à 10 du premier livre des rois sont consacrés au règne de Salomon. Israël est délivré de ses ennemis, il connaît une ère de paix et de prospérité, et Dieu élève le roi Salomon au plus haut niveau de gloire. Le Seigneur Jésus y a fait allusion dans son sermon sur la montagne lorsqu'il a dit
« Considérez comment croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. » Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux.
Évangile selon Matthieu, chapitre 6, versets 28 et 29. Les chapitres 1 et 2 du premier livre des rois montrent comment Salomon succéda à David son père. Le chapitre 3 mentionne la prière que prononça le jeune roi, conscient de sa faiblesse et de ses incapacités, lorsqu'il demanda à Dieu la sagesse pour gouverner Israël. Cette prière honora l'Éternel qui se plut à l'exaucer en accordant à Salomon une sagesse exceptionnelle. 1 Roi, chapitre 4. Les chapitres 5 à 7 décrivent la grande œuvre de Salomon, la construction du temple de l'Éternel à Jérusalem. 1 Roi 8 rapporte la dédicace de ce temple, alors que le chapitre 9 et le chapitre 10 montrent d'autres réalisations de Salomon et dépeignent la gloire de son règne. Mais après la cime, la descente. Un grave déclin spirituel caractérise la fin du règne de Salomon. Le grand roi se laisse séduire et entraîner vers l'idolâtrie par les nombreuses princesses païennes qu'il a épousées. Dieu l'avertit pourtant solennellement. Mais aucun acte de repentance n'entrave cette décadence morale, et Israël tout entier suit le mauvais exemple de son roi. Aussi, le schisme survenu après la mort de Salomon peut-il être considéré comme un jugement divin sur la nation? 10 des 12 tribus se séparent de la maison de David et acclament comme roi Jéroboam, un officier qui s'était révolté contre Salomon. et les effets de cette situation se prolongeront pendant plusieurs siècles. Le récit biblique englobe désormais deux nations. Jérusalem demeure la capitale du royaume du Sud, qui prend le nom de royaume de Juda. Les descendants de David continuent d'y occuper le trône et les Lévites se tiennent toujours devant l'Arche Sainte. Au royaume du Nord, qu'on appelle désormais royaume d'Israël, Jéroboam érige des veaux d'or dans les villes de Dan et de Bethel. Il engage ainsi le peuple à s'éloigner de l'Éternel, et l'idolâtrie atteindra son apogée un siècle plus tard, quand le roi Akab fera de Samarie la capitale du royaume du Nord. Depuis 1 Roi chapitre 12 qui raconte le schisme, jusqu'à la fin du deuxième livre des rois, le texte met donc en parallèle les événements du royaume du Nord et ceux du royaume du Sud. Dans le royaume du Nord, la désagrégation morale est beaucoup plus rapide. C'est l'apostasie la plus complète. Dieu n'est pas seulement oublié, il est renié. Des rois impies se succèdent sur le trône de Samarie. Dieu avertit, juge et écarte une dynastie après l'autre. D'une part, il envoie ses serviteurs les prophètes pour exhorter son peuple. D'autre part, il suscite des instruments pour le châtier. D'abord des officiers israélites, puis des monarques païens. Un peu plus de 2 siècles après le schisme, c'est le jugement de la captivité. Les 10 tribus du Nord sont emmenées par des généraux assyriens dans le pays de Ninive, alors que d'autres migrants les remplacent dans le territoire de Samarie. Pendant ce temps, en Juda, des phases d'apostasie alternent avec des périodes de fidélité à Dieu. Le texte sacré précise
« L'Éternel ne voulut point détruire Juda à cause de David, son serviteur, selon la promesse qu'il lui avait faite de lui donner toujours une lampe parmi ses fils. »
2 Rois 8:19. Les Lévites servent Dieu dans le sanctuaire de Jérusalem. Plusieurs rois s'attachent à l'Éternel et exercent une influence déterminante sur la population. Asa, Josaphat, Joas et surtout Ézéchias, qui fut l'instrument d'un réveil spirituel et ramena le peuple à Dieu. En s'appuyant sur l'Éternel, ce roi intègre déjoue les plans de Sanchérib, roi d'Assyrie, venu assiéger Jérusalem. Il fut alors miraculeusement délivré en réponse à sa foi, 2 Rois 18 à 20. Enfin, Josias fut le dernier roi intègre. Il purifia le temple, rétablit les Lévites dans leur office et célébra une Pâque solennelle à Jérusalem. Mais Juda suivit tout de même l'exemple d'Israël en abandonnant l'Éternel et en s'adonnant à l'idolâtrie, ce qui entraîna aussi le châtiment divin. Alors que le royaume d'Israël avait été emmené captif par les Assyriens autour de l'an 720 avant Jésus-Christ, deuxième livre des rois, chapitre 17, le royaume de Juda subit, environ 120 ans plus tard, la déportation à Babylone. Nebuchadnezzar, roi des Chaldéens, assiège Jérusalem à diverses reprises et finit par brûler le temple et la ville en l'an 586 avant Jésus-Christ, deuxième livre des rois, chapitre 25. Il ne faut pas penser que cette longue période se déroula sans que Dieu se soit révélé et sans qu'il ait renouvelé ses avertissements à son peuple. Du 9e au 6e siècle avant l'ère chrétienne, chaque génération d'Israël eut l'occasion d'entendre le message divin prononcé par des prophètes que Dieu suscitait pour parler de sa part au peuple et l'amener à la repentance. La plupart de leurs prophéties font l'objet d'une révélation distincte et nous aurons l'occasion de les examiner plus en détail lorsque nous étudierons la fin de l'Ancien Testament. Mais les livres des rois réservent une place toute particulière à 2 prophètes qui n'ont pas laissé d'écrit dans l'Ancien Testament. Ce sont Élie, 1 roi 17 à 2 rois 2, et Élisée, 2 rois 2 à 2 rois 13. Le prophète Élie est suscité par Dieu à l'époque du roi Akab et de la reine Jézabel, au moment où l'idolâtrie a atteint son point le plus critique. Messager de l'Éternel, Élie annonce à Israël un jugement. 3 ans et demi de sécheresse et de famine. Et pendant ces années, le prophète est nourri miraculeusement par les corbeaux au bord du torrent de Kérit, puis par une veuve phénicienne à Sarepta. 1 Roi, chapitre 17. Le chapitre suivant montre Élie au mont Carmel, confronté au prophète de Baal. Dieu répond à la foi de son serviteur en envoyant le feu du ciel sur son sacrifice. Les prophètes du dieu païen sont massacrés et l'autorité de l'Éternel réaffirmée. Puis Élie fuit les menaces de la reine Jézabel. Mais Dieu le rencontre à la montagne du Sinaï, 1 Roi 19, l'engageant à poursuivre son ministère devant Akab, Jézabel et leur fils Akazia, 1 Roi 21, 2 Roi 1. Et Dieu met son approbation sur ce ministère extraordinaire en enlevant Élie au ciel dans un char de feu sous les yeux de son serviteur Élisée, appelé à lui succéder, 2 Rois chapitre 2. Le ministère d'Élie est prophétique des jugements que le Seigneur Jésus exercera lors de sa deuxième venue. Quant au ministère d'Élisée, il préfigure la grâce inconditionnelle et souveraine manifestée par Jésus-Christ lors de sa première venue. Comme Jésus-Christ, il fut un instrument de bénédiction à Jéricho, la ville maudite, 2 Rois 2. Comme Jésus-Christ, il ressuscite le fils unique d'une mère qui pleurait et il multiplie les pains, 2 Rois 4. Comme Jésus-Christ, il guérit un lépreux, 2 Rois 5. Et l'on pourrait mettre d'autres miracles d'Élisée en parallèle avec ceux de l'Évangile. Mais concentrons notre attention sur l'un d'entre eux. Nous lisons 2e livre des Rois, chapitre 4, versets 1 à 7.
Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? » Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Et il dit, « Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et lui, il s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, « Va vendre l'huile et paye ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. »
Élisée avait dit à cette femme dans la détresse, « Que puis-je faire pour toi ?» Aujourd'hui, l'homme de Dieu, le divin Élisée, qui est Jésus-Christ, vous dit à vous, en cet instant, « Que puis-je faire pour vous ?» Il est disposé à vous aider, à répondre à votre prière, à intervenir dans votre vie, à pourvoir à vos besoins, à répondre à votre soupir le plus intime, à vous sauver pour la vie et l'éternité. Pour cette femme de l'Ancien Testament, le prophète a employé ce qu'elle avait, le vase d'huile. Et cette huile a été multipliée parce que cette femme avait eu confiance en l'homme de Dieu. Aujourd'hui encore, le Seigneur Jésus fait appel à la petite goutte d'huile qui vous reste, c'est-à-dire à la pensée de l'éternité qui demeure tout au fond de votre être, ou bien à votre sincère désir de trouver Dieu. Ensuite, il multipliera ses grâces envers vous. Le Seigneur Jésus disait, lorsqu'il était sur la terre,
« Qu'il vous soit fait selon votre foi. »
Évangile selon Matthieu, chapitre 9, verset 29. Si aujourd'hui même, vous vous livrez entièrement à Jésus-Christ, cessant de vous confier en vous-même ou en votre entourage, Il répondra à votre prière. Il pardonnera vos péchés. Il vous accordera la paix du cœur et la certitude de la vie éternelle. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Le dernier miracle d'Élisée fut accompli à titre posthume. Lors d'une bataille, on jeta dans son sépulcre un cadavre qui, au contact des os d'Élisée, reprit vie. 2 Rois, chapitre 13, verset 21. C'est encore une image prophétique du sort glorieux qui attend ceux qui auront eu confiance en Jésus-Christ.
Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés.
1 Épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 14. Effectivement, les morts en Christ ressusciteront pour vivre éternellement avec lui. Si aujourd'hui, vous mettez votre confiance en Christ, votre Sauveur, un jour, vous aussi, vous ressusciterez avec lui. Qu'il vous soit fait selon votre foi.
Amen. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Et comme vous le savez très bien, la Bible nous dit que tout est possible à celui qui croit. C'est bien ce que va nous rappeler l'artiste québécoise Andréanne Lafleur avant la deuxième partie de notre émission. Tout est possible. Bonne écoute.
Quand ton cœur t'entraîne à poursuivre un but, à dévoiler les dons que tu as reçus, donne vie à ton rêve, offre-lui des ailes pour qu'il perce le ciel.
Et le cran de voler contre le vent, l'audace de voguer à contre-courant, chasse l'ombre de la crainte. Marche droit dans le chemin.
Tout est possible. Tout est possible.
Celui qui croit.
Alors pose des exploits.
Sur terre est plus précieux que l'or. Un jour s'éveille, puis il s'évapore.
Ouvre tes bras à la vie,
et Dieu te destine à un bel avenir.
Tout est possible, tout est possible. Celui qui croit.
Tout est possible.
l'évangéliste québécoise Andréanne Lafleur. Rejoignons nos amis de Bible Ouverte pour la deuxième partie de l'émission autour des deux livres des Chroniques. Je vous souhaite une agréable écoute.
Le premier livre des Chroniques s'ouvre sur de longues tables généalogiques qui remplissent les 9 premiers chapitres. Puis les chapitres 10 à 29 sont consacrés au règne de David. Le deuxième livre des Chroniques enchaîne en dépeignant la gloire de Salomon, de Chroniques 1 à 9. Il rappelle ensuite le règne de tous les rois de Juda, depuis Roboam jusqu'à Sédécias, de Chroniques 10 à 36. C'est dire que les deux livres des Chroniques racontent plus de 4 siècles d'histoire, couvrant les événements déjà présentés dans les deux livres de Samuel et les deux livres des rois.
Ces deux livres sont-ils en quelque sorte comme une répétition des livres précédents?
Oui et non. Ils sont un complément des précédents plutôt qu'une répétition. Les auteurs des livres de Samuel et des rois semblent avoir écrit leurs textes au fil des jours et des événements. Par contre, l'auteur du livre des Chroniques doit avoir vécu beaucoup plus tard, vraisemblablement à l'époque des captivités.
Qu'est-ce qui vous fait penser que les Chroniques datent de l'époque des captivités?
Tout d'abord, les généalogies du début de 1 Chronique. Partant des premiers chapitres de la Genèse, elles aboutissent à une époque nettement postérieure à David et à Salomon, puisqu'à diverses reprises apparaissent même les noms de ceux qui jouèrent un rôle à l'époque des captivités.
Ces longues tables généalogiques, pourquoi sont-elles dans nos Bibles? Car il faut le reconnaître, elles sont rébarbatives à lire.
Ces généalogies peuvent effectivement nous paraître rébarbatives, mais elles permettent aux chroniqueurs de situer les événements. Et elles avaient une grande importance pour les Israélites, du fait qu'elles jouaient alors à la fois le rôle de registre d'état civil et de pièce d'identité. Un Israélite capable de présenter ses titres généalogiques avait le droit de participer à la vie civique et religieuse. Si un Lévite ne pouvait prouver ses origines, il était même exclu de ses fonctions. Aussi comprend-on que les Israélites revenus de Babylone en Palestine sous Zorobabel, Esdras et Néhémie durent faire des recherches pour retrouver leur titre généalogique. Le livre d'Esdras raconte même l'embarras de quelques fils de la captivité qui n'avaient pas retrouvé les leurs, Esdras 2, 62. Les événements de l'exil à Babylone avaient entraîné une profonde rupture dans l'histoire nationale d'Israël. Et il incomba au conducteur spirituel du retour de l'exil de renouer le fil de cette histoire. Il fallait que les nouvelles générations découvrent à leur tour les récits glorieux du passé auxquels ils n'avaient plus accès, surtout ceux d'entre eux qui ne comprenaient plus l'hébreu. Il fallait aussi que l'histoire nationale d'Israël retrouve pour les fils de la captivité l'importance qu'elle avait eue pour les générations précédentes. À cette époque, Dieu suscita Esdras, un scribe versé dans la loi de son Dieu, non seulement pour enseigner au peuple les récits sacrés des Écritures, mais vraisemblablement aussi pour rédiger les livres des Chroniques.
Et qu'est-ce qui vous fait supposer qu'Esdras soit l'auteur des livres des Chroniques?
Tout d'abord le fait que la fin du deuxième livre des Chroniques corresponde mot pour mot à l'introduction du livre d'Esdras. Puis, le langage sacerdotal qui caractérise les deux livres des Chroniques.
Langage sacerdotal? Qu'est-ce que vous entendez par là?
Eh bien, pour l'auteur, les conquêtes militaires semblent être moins importantes que l'organisation de la vie religieuse d'Israël. Ainsi, les batailles sont à peine mentionnées. Par contre, les chroniques s'étendent beaucoup plus que les livres de Samuel et des rois sur des considérations d'ordre ecclésiastique. Plusieurs chapitres de 1 Chronique sont consacrés à l'organisation du culte, à l'établissement des chantres, des portiers et des lévites dans leur office. Certains événements sont aussi analysés avec les leçons spirituelles qui en découlent. En voici un exemple. 2 Samuel nous raconte comment l'arche de Dieu fut transportée par David à Jérusalem. Dieu frappa alors un homme bien intentionné parce qu'il avait étendu sa main sur l'arche. David fut irrité par la sévérité d'un tel châtiment. Il eut peur de Dieu et laissa l'arche sur place. 3 mois plus tard, l'arche fut tout de même amenée à Jérusalem. Or, lorsque les mêmes faits sont racontés dans les chroniques, le texte met en relief la raison du châtiment de Dieu. Au lieu d'être transporté sur un char, l'arche aurait dû être portée par les Lévites. Aussi, David dit-il aux Lévites,
« Parce que vous n'y étiez pas la première fois, l'Éternel notre Dieu nous a frappés, car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. »
Premier livre des Chroniques, chapitre 15, verset 13. Et l'on pourrait citer d'autres exemples où les livres des Chroniques fournissent l'explication d'événements qui ne sont que racontés dans les livres de Samuel et des Rois.
Y a-t-il d'autres différences entre les Chroniques et les livres précédents?
Oui, et l'une d'elles est fondamentale. Alors que dans les livres des Rois, le texte décrit simultanément les événements se déroulant dans le royaume du Nord, les 10 tribus, et dans le royaume du Sud, Juda, le deuxième livre des Chroniques se concentre sur l'histoire des rois de Juda, ne mentionnant qu'occasionnellement le royaume du Nord.
Et pourquoi Esdras se serait-il désintéressé du royaume du Nord?
Les livres des Chroniques semblent s'adresser aux rescapés de l'exil, formés en majorité de descendants de Juda. Rappelons que les 10 tribus du Nord avaient été déportées en Assyrie, alors que la tribu de Juda et celle de Benjamin avaient été emmenées captives à Babylone. 70 ans plus tard, l'empereur Cyrus publia dans la région de Babylone un édit favorisant le retour des Juifs à Jérusalem. Ce sont donc surtout des descendants de Juda et de Benjamin qui revinrent en Palestine après l'exil. Durant des siècles, un profond fossé avait séparé les 2 familles d'Israël. Souvent, au cours de l'histoire, elles avaient pris les armes l'une contre l'autre. Les habitants de Jérusalem, encore attachés au culte de l'Éternel, méprisaient leurs frères infidèles de Samarie. Or, cette inimitié s'accentua au point de devenir un sujet de préoccupation pour les prophètes. Il était donc logique que l'auteur du livre des Chroniques concentre son attention sur les rois de Juda, mais là encore, il le fait sous l'impulsion du Saint-Esprit en soulignant des considérations spirituelles. Quelques exemples. L'écrivain sacré s'arrête sur la grande victoire que le roi Josaphat remporta sur les peuples voisins, en mettant l'accent sur la louange entonnée avant la bataille et la délivrance miraculeuse de l'Éternel. 2 Chroniques, chapitre 20. Ou bien, lorsque le Saint-Esprit pousse l'auteur des Chroniques à décrire le règne d'Ézéchias, il ne s'arrête pas tellement, comme le texte parallèle de 2 Rois 18 à 20, à la bataille contre Sanchérib, roi d'Assyrie, mais surtout à la réforme spirituelle entreprise par Ézéchias et à la grande fête de la Pâque qui fut célébrée sous le règne de ce roi intègre. Enfin, l'auteur des Chroniques analyse les événements sous un angle rétrospectif. Il fait ressortir le point de vue de Dieu sur l'ensemble de l'histoire nationale et cherche à en tirer des leçons pour l'époque qu'il est en train de vivre. Lisons à cet effet la déclaration de 2 Chroniques, chapitre 36, versets 15 et 16, au sujet des captivités.
« L'Éternel, le Dieu de leur père, donna de bonne heure à ses envoyés la mission de les avertir, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu, ils méprisèrent ses paroles, et ils se raillèrent de ses prophètes, jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devienne sans remède. »
C'est parce que la colère de l'Éternel était devenue sans remède qu'il permit à Nebuchadnezzar, roi des Chaldéens, d'envahir Jérusalem et d'emmener Juda captif à Babylone. Dieu avait patienté, il avait envoyé ses prophètes, il avait averti, il avait supplié Israël d'écouter, mais nul n'avait prêté l'oreille à ses envoyés. Aussi avait-il dû sévir, car sa colère était devenue sans remède.
Et comment peut-on concilier l'idée de la colère de Dieu avec celle de l'amour de Dieu?
Si Dieu est amour, il est aussi justice. Que penserait-on d'un père laissant son enfant exécuter tout ce qui lui passe par la tête? Parce que Dieu aime, il prévient les écarts. Il propose sa miséricorde au coupable. Et parce qu'il est juste, il punit celui qui ne veut pas se repentir. Dieu a patienté tant de fois avec Israël. Mais à force de refuser d'écouter les avertissements, le peuple était devenu insensible. La situation était donc sans espoir. Or aujourd'hui, il en est de même. Les actes d'injustice commis sur le plan universel font appel à la souveraine justice de Dieu, même à sa vengeance. Cependant, Dieu avertit les hommes, et c'est pourquoi il a envoyé sa parole, la Bible, et Dieu patiente avec eux pour qu'ils découvrent son amour et sa grâce. L'apôtre Pierre écrivait à ce sujet:
« Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. »
Deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 9. Aujourd'hui, Dieu patiente avec vous. Il plaide en faveur de votre âme, afin qu'elle ne périsse pas. Car il désire que, par la repentance, vous accédiez à son merveilleux salut. Ne faites pas comme Israël et Juda il y a 25 siècles. Aujourd'hui, venez à Jésus-Christ, découvrez son amour et recevez la vie éternelle comme don de sa grâce.
C'est bien de cet amour que va nous parler également le pasteur Paul Baloche dans ce chant intitulé « The Same Love », le même amour. Bonne écoute à toutes et à tous. Vous êtes à l'écoute de Flash sur la Bible.
You choose the humble and raise them high. You choose the weak and make them strong. You heal our brokenness inside and give us life. The same love that set the captives free.
The same God that's
Your station. Chères auditrices, le temps des parties à notre programme touche à sa fin. Nous devons prendre congé de vous. Avant de partir, je voudrais vous remercier sincèrement de votre intérêt pour le travail que nous faisons sur cette radio Ebenezer International. Et nous comptons sur vos prières pour l'avancement de ce ministère. Je vous rappelle que cette émission est une courtoisie de Bible Ouverte, qui est une association des églises Action Biblique de Suisse. Avant de partir, je remercie tous nos amis de Bible Ouverte pour leur fraternelle collaboration avec la radio chrétienne Ebenezer International. Et nous prions pour que le Seigneur continue de se servir de leur travail pour promouvoir la bonne nouvelle du salut par la foi en Jésus-Christ et en lui seul. C'était pour vous servir, au micro et à la réalisation, votre ami podcasteur Franck Doristil qui vous dit une fois de plus merci, que le Seigneur vous bénisse, en vous donnant rendez-vous pour la prochaine édition de Flash sur la Bible qui nous permettra d'étudier d'autres livres des Saintes Écritures. Je vous laisse avec l'artiste sud-africain Neville Didwix, qui nous offrira un deuxième morceau de son répertoire intitulé « I won't be afraid, je n'aurai pas peur ». Au revoir! Vous venez d'écouter Flash sur la Bible. Flash sur la Bible, sur la radio chrétienne Ebenezer International. The Digital Gospel Channel.
Afraid to lose, but afraid to win. Make mistakes and afraid to try again. What is going on in this heart of mine? I don't understand. Why am I afraid to die, but afraid to live? Afraid to lift my hands and afraid to sink in. What is going on? I don't understand, but I'm here. I won't be afraid anymore. God didn't give us a spirit of fear.